Du jeu au nous. Histoire romancée en accéléré d'une femme qui découvre un groupe communautaire. Par Jean-Yves Johannet, militant porteur d'éducation populaire. La faim vous réveille. Vous avez faim. Une faim qui creuse, de la faim de trop de repas sautés, de la faim qui s'ancre et qui donne des crampes. Une faim qui étourdit, qui engourdit. Une faim qui fait parler le ventre. Lorsque le ventre vous parle, c'est que vous n'avez plus d'oreilles et encore moins d'oseille. Pour vous convaincre que vous n'êtes pas à mourir de faim, vous faites sans fin un exercice de mémoire. Vous cherchez à constamment à vous rappeler quoi et à quel moment vous avez mangé la dernière fois, hier et avant-hier. Parfois, vous ne savez plus. Hier, pas grand-chose. Avant-hier, plus qu'hier, mais quand même pas grand-chose. L'exercice vous laisse toujours sur votre faim. Enfin, le jour se lève. L'estomac dans les talons, vous allez à la banque alimentaire. Vous traînez derrière vous votre petit chariot. Vous rencontrez du monde comme vous, des personnes qui, malgré leur faim, sourient. Vous échangez des nouvelles. Dans les queues de dépannage alimentaire, il y a des silences et des rires. C'est un moment pour ravaler ses pleurs et socialiser. Vous ne sortez pas beaucoup. Le dépannage alimentaire est une sortie qui vous nourrit. Le chariot plein, enfin, un peu plein. Vous vous promettez de planifier vos repas, d'étirer la sauce. Étirer la sauce. Au Québec, on ne meurt pas de faim, mais on peut être vraiment affamé. Ici, on ne meurt pas de faim. On entretient la faim. La faim, c'est l'ancien mot pour parler d'insécurité alimentaire. Pour rentrer chez vous, vous marchez dans la gadoue et les roulettes de votre panier se traînent sur le trottoir mal déneigé. Vous arrivez à votre logement. Un loyer qui vous coûte la peau des fesses, qui vous coupe l'épicerie, qui vous couperait l'appétit si vous n'aviez pas si faim. Vous avez fait une demande dans un HLM. Vous avez entendu aux infos qu'ils sont mal entretenus, mais vous demeurez persuadé que cela améliorerait votre vie. C'est qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de sacrifices pour se payer un taudis. Le vôtre n'est pas chauffable. Il est mal isolé. Le froid entre par toutes les craques. Le froid vous prend dans ses bras, il vous mord. Le froid est rentré dans votre corps. Il s'est installé en vous. Il ne sort plus de votre corps. Pour vous réchauffer, vous grelottez. Vos bébites vous habitent. Une nuit, vous ne dormez pas. Vous vous levez. Sur la table de cuisine, une coquerelle se promène à la recherche de vos miettes, comme si vous étiez capable de laisser une miette sur la table. La faim et le froid se sont alliés. Vous vous doutez bien qu'en catimini, caché dans un recoin, un rhume vous épie et attend le moment propice pour vous prendre à la gorge. Dehors, il y a du vent, de la neige et du froid. Vos fenêtres sont comme le poème de Nelly Gant. Vous comprenez pourquoi il est devenu fou. Sur les épaules, vous avez une couverture. Vous l'avez prise au bazar de la paroisse. Elle est en belle laine piquante. Avec elle, vous vous renfermez sur vous-même à la recherche d'un quelconque feu intérieur. Vous doutez. En vous, quelle flamme reste-t-il? La coquerelle ne bouge pas. Elle semble vous regarder. Vous êtes content de ne pas avoir de punaise. On vous l'a dit 100 fois pour vous consoler. Les coquerelles vivent que dans les endroits propres. Votre logement est dispendieux. Il n'est pas chauffable, mais il est propre. Vous êtes propre. Les nuits d'insomnie, votre cerveau devient une vieille lessiveuse qui brasse et rebrasse de vieilles idées noires, des vieilles blessures mal raccommodées. Les égratignures de l'enfance, vos rêves brisés de jeunesse, vos échecs d'adulte, vos désespoirs amoureux. Tout ce que vous aimeriez pouvoir passer dans le tordeur, mais rien n'y fait. Votre cerveau est à spin et vous vous sentez lessivé. Il y a des trucs que la faim, le froid et la pauvreté constante érodent. Votre confiance en vous est rouillée depuis longtemps. À force de vous critiquer et vous en vouloir, vous avez sali votre amour-propre. Il est tout sale, votre amour-propre. Vous en avez honte. Vous êtes persuadé que tous les regards qui se posent sur vous le voient. Vous n'êtes rien et le rien vous habite. Vous n'êtes plein de rien. La coquerelle vous fixe toujours. Vous êtes écœuré sans y penser, d'un coup, vous l'écrasez. La coquerelle gît sur la table, mais vous habitez toujours ce maudit cafard. Combien d'échecs faut-il dans la vie pour se retrouver avec un si petit chèque? Comment autant d'additions peuvent-elles produire autant de soustractions? La fin du mois arrive. La fin du mois annonce le début de l'autre mois. Un autre loyer à payer, d'autres comptes à payer. Le loyer, l'hydro, Bell et des restants de cartes de crédit qui datent de l'époque où vous en aviez. Comment faire? On peut toujours se passer de médicaments. Comment étirer un petit chèque? Vous avez tout essayé. Il y a quelques mois, vous avez eu un coup de génie. Vous avez mis le chèque de Bell dans l'enveloppe de l'hydro et celui de l'hydro dans celle de Bell. C'était une idée brillante. Mais on ne peut pas la reproduire trop souvent. Votre ventre se rappelle à votre présence. Vous vous imaginez artiste, créatrice d'une nouvelle musique composée uniquement de borborygmes et de pets de choux. Cette idée vous fait rire. Vous rencontrez un groupe. Dans la queue du dépannage alimentaire, on vous a parlé d'un groupe qui offre du café et des beignes une fois par semaine. On vous a dit qu'ils offraient des collations pour attirer le monde à leurs conférences. Cela vous a intrigué, mais comme ventre affamé n'a pas d'oreille, vous vous dites que vous ne serez pas obligé d'écouter. Vous êtes là pour la première fois. Vous rencontrez des personnes que vous avez déjà vues dans la queue de la banque alimentaire. La place est chaleureuse et le café est chaud. Vous vous asseyez à côté d'une grosse femme souriante. Vous engagez la conversation, de lui parler de tout et de rien vous rassure. On néglige trop souvent l'importance du tout et du rien. Une animatrice se présente et commence la conférence. Vous faites semblant de l'écouter et elle parle de pauvreté. Vous êtes un peu découragé. Sortir pour entendre parler de ce que l'on connaît, franchement. Une chance, les beignes sont bons. L'animatrice parle de problèmes d'insalubrité et votre oreille se tend. Vous apprenez que vous pouvez porter plainte contre vos croquerelles. La bonne idée pour répliquer à votre proprio. Son loyer, il peut se le mettre dans le... Et vous y retournez. Et de semaine en semaine, vous apprenez à voir du monde, des gens comme vous, et vous parlez de tout et de rien. Vous rencontrez des gens qui sourient malgré leur vie difficile. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, de tellement loin, des pays où la misère est encore plus grande que celle qu'ils vivent ici. Vous ne vous étiez jamais intéressé à ce qui se passe dans le monde, et là, le monde vient à vous. Et curieusement, entre le tout et le rien, il vous arrive de plus en plus de parler des sujets de conférence, et vous vous surprenez à avoir des idées. Et pour la première fois, vous osez prendre la parole. Oui, on vous a donné la parole et on vous a écouté. Vous étiez gêné, vous parliez sur le bout des fesses. On vous encourage à parler. Vous avez fait des phrases avec des si, avec des re, et personne ne vous a tapé sur les doigts. Vous avez réussi à finir vos phrases, à raconter des bouts de votre vie. On vous a remercié de votre témoignage. Vous retournez chez vous, surprise de vous-même, presque fière. Plus que cela, vous êtes très fière et très contente de vous être fait une amie que vous pourriez inviter à manger si vous aviez de quoi offrir. De fil en aiguille, vous vous retrouvez dans d'autres réunions du groupe et vous n'y allez plus seulement pour le café, mais toujours un peu pour les beignes. Un jour, l'animatrice vous invite à un atelier de création littéraire. Vous ne connaissez pas cela, vous refusez, vous n'écrivez pas souvent. Elle vous rassure, elle vous dit que vous seriez d'un bon apport. Elle a remarqué que vous aviez de l'imagination. Inquiète, vous vous retrouvez dans l'atelier de création littéraire. L'animatrice vous propose de créer collectivement un texte sur le thème de la faim. Vous vous dites que vous avez beaucoup d'idées sur le sujet. Et le groupe d'échanger, de rire, des recettes inimaginables que l'on fabrique avec des ingrédients que Ricardo ne mettrait jamais ensemble. Votre groupe invente un conte. Conte de la vieille dame oubliée. Il était une fois, dans un pays qui ne ressemble en rien au nôtre, où vivent des gens tellement différents de nous qu'aucune comparaison n'est possible. Dans ce pays vit une vieille maman, qui avec le temps est devenue une vieille dame solitaire. Ces enfants sont très occupés avec leur vie et la délaissent de moins en moins. Un jour, l'organisme qui lui livre deux repas par jour l'oublie. Elle ne s'inquiète pas trop. Le lendemain, la même chose se produit. Elle appelle le service de popote. On lui dit que c'est une erreur. Le lendemain, la même chose se reproduit. Elle appelle encore. On lui répond qu'il manque de main-d'œuvre. Le surlendemain, même chose. On lui explique que les dons des mieux nantis ont diminué. Et les surlendemains, les raisons changent, mais la bouffe ne vient pas. De jour en jour, ses armoires se vident, puis elles sont vides. Alors, à bout de ressources, affamée, découragée, elle a une idée. Elle va dans le fond de sa garde-robe et en sort sa boîte à souvenirs. Alors, entre les cartes de Noël et d'anniversaire, entre les foulards oubliés, entre les photos de mariage, de naissance et d'amis disparus, la vieille dame sort une petite boîte de carton et l'emporte dans la cuisine. Sur la table de la petite boîte, elle sort tous les colliers de nouilles que ses quatre enfants lui ont offerts à chaque fête, à chaque occasion. Elle les avait conservés comme seules les mamans peuvent garder des souvenirs inutiles. Tranquillement, patiemment, elle les défait, les égrène, puis les fait bouillir. Après les avoir égouttés, après avoir ajouté une maigre sauce tomate, elle se fait une belle assiette. Il y a un âge où l'on doit se nourrir de ses souvenirs. Fin! Le groupe est très fier de sa composition. Vous êtes très fier de votre apport. L'animatrice veut l'envoyer au collectif pour un Québec sans pauvreté. Vous ne savez pas ce que c'est exactement, mais comme tout le monde trouve que c'est une bonne idée, vous allez voyager. Puis on vous invite à une manifestation. Vous réfléchissez. Qu'est-ce que j'irai faire là? À la télévision, dans les manifestations, il y a des gens qui reçoivent des violents coups de bâton. Vous refusez. L'animatrice vous rassure, puis votre amie insiste. C'est une manifestation à Québec. Le lunch est fourni. Elle veut faire le voyage avec vous. Vous acceptez pour lui faire plaisir. C'est une journée de printemps. Il fait soleil. Il y a des siècles que vous n'êtes pas sorti de Montréal. La route est longue, mais vous êtes émerveillé. L'horizon, il y a tellement d'horizons lorsqu'on n'est pas entouré de murs. Puis, il y a les feuilles dans les arbres. Les champs sont encore gorgés d'eau. Il y a quelques fleurs sur le bord de la route. Tout à coup, tout le monde s'énerve. Dans le ciel, un vol de bernaches. Vous n'aviez jamais vu cela. Vous ressentez une joie enfantine, une joie que vous aviez oubliée. Vous arrivez enfin. Il y a plein de gens, des tas de personnes que vous n'avez jamais vues. Vous avez l'impression d'être dans le métro, à l'heure de pointe. Non, ce n'est pas cela. Les gens sont joyeux. Ils sourient. La manifestation se met en marche. Comme les autres, vous criez des slogans. Il y a des slogans de colère contre les injustices, contre des choses que vous avez vécues. Le cortège s'arrête. Sur un camion, des personnes parlent. Leurs discours sont entrecoupés de slogans. Vous n'écoutez pas vraiment, mais dans vos oreilles, des bouts de phrases, des mots arrivent et repartent. Une porte-parole crie qu'elle a soif de justice. Des mots qui s'ancrent dans votre tête. Vous arrivez chez vous. Vous avez le sentiment que le voyage vous a fait effet. Vous venez de réaliser que vous n'êtes pas seul. Tout à coup, vous comprenez que la société est organisée pour que des milliers de personnes pensent qu'elles sont toutes des raisons individuelles d'échouer collectivement. Dans votre tête, vous entendez ces mots qui vous ont marqué. Soif de justice. Quelle belle image. Vous n'avez plus seulement faim, vous avez aussi soif de justice. Puis, pour la première fois de votre vie, vous dites, nous, nous avons soif de justice. Vous venez de passer du je au nous, et vous vous promettez de ne plus jamais vivre à genoux. Texte paru dans les nouveaux cahiers du socialisme, numéro 30. Le mal-être pluriel est reproduit avec la permission de l'auteur.